J'aimerais parler ce matin sur « quand il n'y a pas d'issue ». Dans Exode, chapitre 14, au verset 1. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple et ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Amen. Il nous arrive parfois de nous trouver dans une impasse. Il n'y a pas d'issue, on ne sait pas comment on pourra s'en sortir, mais on se rend compte, bien que le Seigneur a pourvu à des solutions. Dans le contexte de ce récit, nous retrouvons Moïse qui avait été envoyé par Dieu pour être le libérateur du peuple. Nous savons qu'il a obéi avec ses 80 ans, donc il avait 80 ans. Il arrive en Égypte, il s'adresse à Pharaon, mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu puisque Pharaon refuse de laisser aller le peuple et c'est là que Dieu va susciter 10 plaies, les 10 plaies qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, et dont la dernière plaie va être la mort de tous les premiers-nés. Et suite à cette dernière plaie, eh bien, le Pharaon va accepter de laisser partir le peuple. Alors, tout se passe bien jusqu'à ce que le peuple arrive devant la mer Rouge. Et la mer Rouge, c'est comme une barrière qui les empêche d'avancer. C'est comme maintenant une impasse dans laquelle ils se trouvent. Et quelquefois, bien, c'est pourtant Dieu qui les a conduits. Alors nous avons pris un chemin, nous avons pensé que Dieu nous conduisait, nous sommes maintenant dans cette impasse et nous sommes bloqués, peut-être on n'a pas le travail qu'on attendait, qu'on n'a pas le poste, la situation qu'on espérait ou la maison qu'on voudrait acheter. Et on a prié, on a jeûné, on a cherché la face de Dieu, mais la situation reste bloquée. C'est peut-être par rapport à un enfant qui résiste, qui n'est pas au Seigneur. Bien, que faire dans cette situation d'impasse ? Alors, la première chose, je dirais, que nous devons apprendre, à prendre les choses comme elles viennent. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, la mer Rouge, on ne peut pas la bouger, elle est là, elle est incontournable, elle fait partie du décor. Et on ne pourra pas la bouger. Il y a des éléments dans lesquels nous sommes, que nous ne pouvons pas changer. Ça, nous devons l'admettre. Ensuite, bien apprendre à faire confiance à Dieu quand la situation est bloquée. parce que nous croyons que Dieu est capable de créer une issue qui n'existe pas encore aujourd'hui. On a un texte dans l'épître de Paul aux Corinthiens qui dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. » Et le texte original, c'est-à-dire le texte grec, dit ceci, pour la dernière partie du verset, « Dans une impasse, mais pas totalement dans une impasse. » Moi, j'aime bien cette version qui est la traduction littérale du texte, parce qu'il nous parle d'une impasse, mais même quand nous, chrétiens, nous sommes dans une impasse, en réalité, nous ne sommes pas totalement dans une impasse. Parce que Dieu est là et qu'il peut ouvrir une porte qui n'existe pas encore aujourd'hui. Alors que faire ? Eh bien, patienter jusqu'à l'intervention de Dieu, car Moïse ne pouvait rien faire si ce n'est de prier et de s'attendre à la grâce de Dieu. Le premier point, je le lirai au chapitre 13 du verset 18, un petit peu avant notre lecture. Il y a un élément qu'il nous faut souligner, c'est le détour de Dieu. Le détour que Dieu a fait prendre à son peuple. Au verset 18 du chapitre 13, « Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. » C'est quand même Dieu à l'origine qui a fait faire au peuple un détour et c'est Dieu qui a conduit le peuple dans cette direction. Donc, on pourrait dire que Dieu a conduit le peuple dans une impasse puisque maintenant, ils sont bloqués. Et c'est pareil dans notre vie que quelquefois, bien, Dieu permet que nous fassions un détour. Mais parfois, nous disons-nous, c'est inutile. Et pourquoi cette perte de temps ? Pourquoi ce détour ? Parce que nous analysons d'une façon humaine, et c'est ce qu'on a tous appris à l'école, pour aller le plus rapidement d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Mais si vous faites des détours, vous allez perdre du temps. Mais avec Dieu, on se rend compte que les détours ont une importance que nous ignorons et que le peuple ignore à ce moment-là. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. En fait, si on lit le contexte de ce chapitre 13, Dieu dit « Je vais leur faire faire ce détour parce que s'ils vont dans la ligne droite, c'est-à-dire directement vers le pays des Philistins, ils verront qu'il y a la guerre, ils auront peur et ils retourneront en Égypte. » Ça veut dire que Dieu sait à l'avance si nous prenons ce chemin, ce qui va se passer, mais si nous prenons l'autre chemin, ce qui va se passer. Et donc, il a décidé de leur faire emprunter ce deuxième chemin, ce détour, parce qu'il savait d'avance que l'autre était moins bon. Eh bien, voilà comment Dieu agit. Et s'il nous fait emprunter un détour, c'est parce que pour nous, c'est la meilleure chose. Et Dieu a toujours raison. Le peuple, évidemment, encore l'ignore, mais il va le découvrir ensuite. Si on regarde la parole de Dieu, on verra que bien des personnages dans la Bible ont fait des détours. Par exemple, Joseph a été appelé à l'âge de 17 ans. Il a eu ces belles visions où il voyait les gerbes de ses frères se prosterner devant sa gerbe. Il voyait le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Et tout cela, c'était des images pour montrer à Joseph qu'il allait être appelé à une position de responsabilité. Mais il n'y a pas eu de ligne droite dans la vie de Joseph entre le moment où il a reçu cette directive et le moment où il a exercé cette responsabilité. Il y a eu des détours. Et le premier détour a été par l'Égypte. Il a été vendu par ses frères comme esclave. Il s'est retrouvé en Égypte, dans la maison de Potiphar. Et il a fait encore dans la maison de Potiphar un deuxième détour par la prison, où là, il est resté en prison parce qu'il a été accusé d'avoir porté atteinte à la femme de Potiphar. Et c'est alors qu'il était au plus bas, dans la prison, qu'il a rencontré l'échanson qui venait directement de chez Pharaon et qui a mis Joseph en relation avec Pharaon. Donc tous ces détours qui nous paraissent inutiles, qui nous paraissent une perte de temps, en fait, ont été pour Joseph un emmagasinement d'expériences, de préparation, en fait, au service qu'il allait accomplir par la suite. Ce détour a quand même duré 13 années. Si on regarde David, c'est la même chose. David a reçu l'onction très tôt, il était encore adolescent, et il a été oint au milieu de ses frères pour être le roi d'Israël. Mais ensuite, il a connu toutes sortes de détours avant d'arriver à cette destination, puisque Saül est devenu jaloux de lui après sa victoire sur Goliath. Il a commencé à devoir fuir. Il a fui déjà dans les déserts, dans les grottes, des détours. Mais il a même dû fuir dans le pays des Philistins, où il s'est fait passer pour un fou. Il a dû combattre avec les Philistins, étant engagé avec eux. Donc tous ces détours qui ont duré, les commentateurs estiment, à 17 ans, entre le moment où il a donc reçu l'onction et effectivement le moment où, après tous ces détours, il est revenu en Juda et qu'il a commencé à régner, eh bien tous ces détours ont préparé en fait David à être le roi qui allait gouverner Israël. Et encore une fois, il y a eu encore un détour, puisqu'il n'a pas commencé par gouverner Israël en entier. Il a commencé par Juda, la tribu de Juda qui était au sud. C'est celle-ci qu'il a commencé à gouverner pendant 7 ans. Et c'est seulement au bout de ces 7 ans qu'enfin, il a fait la totalité de ce que Dieu avait prévu pour lui. Vous voyez que on peut très bien avoir une direction pour un point donné, mais avant d'y arriver, il y a d'autres éléments que nous ne savons pas, mais qui vont nous préparer à arriver au point de destination. Et là, c'est pareil pour le peuple d'Israël. Dieu a voulu qu'ils fassent un détour avant qu'ils arrivent en Canaan. C'était prévu pour 2 ans, puisque Dieu voulait leur enseigner aussi les 10 commandements, les lois et les principes, avant qu'ils arrivent dans la terre promise, le pays de Canaan. Sauf qu'entre-temps, lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont envoyé des espions, ils ont eu peur parce qu'ils ont dit « c'est un pays de géants, nous ne sommes pas prêts ». Eh bien, ce détour, finalement, s'est accentué. Ils ont fait 40 ans de détour dans le désert. Mais ça, c'est une conséquence de leur désobéissance, nous pouvons le voir. Car Dieu avait prévu qu'ils entrent dans le pays de Canaan après qu'ils aient reçu les 10 commandements, qu'ils aient passé ce temps dans le désert, mis à part, ils étaient prêts, et alors ils ont désobéi. Alors, que faire quand on est dans un détour ? Eh bien, nous pouvons dire que c'est l'école de Dieu, c'est là que nous apprenons aussi des choses sur nous-mêmes, sur Dieu, et nous apprenons des choses qui nous seront utiles par la suite. Aujourd'hui, nous ne voyons pas trop l'utilité, mais en tout cas, un jour, cela nous sera très utile. Et puis, ces détours sont l'occasion pour nous de développer le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit ? Galates 5, 22 nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience, on a besoin de développer la patience. La patience, et souvent, Dieu permet des circonstances, des détours, justement des attentes pour nous permettre de développer ce fruit, la patience, la bonté, la foi, la maîtrise de soi. Tout cela, c'est le fruit de l'esprit. Et puis, on apprend aussi à se laisser conduire par Dieu dans ces moments de détour où on comprend que ce n'est pas nous qui dirigeons notre vie, mais c'est Dieu qui a un plan. Eh bien, nous acceptons de suivre son plan. Alors justement, le deuxième point, c'est le verset 4, donc dans le chapitre 14, c'est le plan de Dieu. Alors le plan de Dieu est inscrit ici. Dieu dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. J'endurcirai le cœur de Pharaon. C'est un premier élément que nous voyons dans ce texte qui nous montre que Dieu dispose des temps et des circonstances et puis qu'il peut incliner les cœurs ou endurcir les cœurs. Notez qu'il est dit dans d'autres passages que Pharaon lui-même s'était endurci. Il avait endurci son cœur. C'est donc notre responsabilité, ça nous parle de notre choix, de notre décision, parce que vous êtes bien sûr libre, personne ne vous a forcé à suivre Jésus et personne ne vous a obligé à venir ce matin, vous êtes libre et responsable. Mais à un moment donné, Pharaon a endurci lui-même son cœur et la Bible dit que Dieu a endurci son cœur, c'est-à-dire qu'il est allé dans le sens de cet endurcissement. Vous voyez dans Romains chapitre 9 verset 18, c'est dit: ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et quand il voit qu'un cœur s'endurcit, qu'il ne veut pas, eh bien, Dieu peut l'utiliser aussi, ce cœur endurci, pour accomplir son plan. Mais attention, cet endurcissement, parce que Pharaon a quand même sa responsabilité, il aurait pu à tout moment renoncer, se repentir, accepter que Dieu intervienne différemment de ce qu'il avait prévu. Non, il s'est entêté et ça va causer sa perdition. Alors cela nous parle à nous, car si nous nous entêtons, si notre cœur s'endurcit, eh bien l'issue, ça sera comme pour Pharaon, c'est la perdition éternelle, la séparation d'avec Dieu pour toujours. Mais Dieu, en tout cas de son côté, il veut le salut de tous les hommes, dans Hébreux chapitre 3, verset 15. Il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est-à-dire la voix de Dieu, la voix de Christ, n'endurcissez pas vos cœurs, comme l'a fait Pharaon, comme lors de la révolte, parce que le peuple aussi, à un moment donné, a endurci son cœur. Certains parmi le peuple n'ont pas voulu de Dieu. » Donc, le conseil de la parole, c'est « N'endurcissez pas vos cœurs. » Ça nous montre notre responsabilité. La finalité du plan, c'est au verset 4. Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Ça, c'est la finalité de ce que Dieu veut. Il veut faire éclater sa gloire. Alors, nous ne comprenons pas toujours comment la gloire de Dieu va éclater parce qu'on n'a pas tous les éléments. On a peut-être un ou deux éléments, mais on n'a pas l'ensemble du plan. C'est un petit peu, pour prendre une image, comme quand on a un puzzle qui a des centaines de pièces et qu'on a quelques pièces dans les mains et qu'on ne comprend pas très bien quel est leur sens. Mais lorsqu'on les place au bon endroit et on voit l'image complète, on comprend l'ensemble du plan. Mais nous, souvent, nous n'avons que quelques éléments et nous ne savons pas comment Dieu va faire éclater sa gloire dans cette affaire. Sauf que si on avait toutes les pièces, on verrait exactement l'ensemble et du plan de Dieu. Pareil, quand Dieu a créé l'univers, la Bible dit qu'il a manifesté sa gloire. Et la gloire de Dieu, elle est dans la création. Dans le psaume 19 et au verset 2, il est dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Il fait éclater sa gloire. Quand nous voyons les cieux, quand nous voyons la création, nous voyons en fait la gloire de Dieu. On ne voit pas simplement des étoiles, on ne voit pas simplement les montagnes, ce qu'il a créé, mais on voit à travers l'univers, on voit la gloire de Dieu. L'étendue, c'est-à-dire le ciel, manifeste l'œuvre de ses mains. Et la Bible va même plus loin. Elle dit même qu'en regardant la création, nous voyons les attributs de Dieu. Dans Jérémie chapitre 10, verset 12, il dit que Dieu a créé la terre par sa puissance. Donc la création nous parle de la puissance de Dieu. Il a fondé le monde par sa sagesse. Ça nous parle de sa sagesse infinie. Il a étendu les cieux par son intelligence. Voilà. Toutes les caractéristiques de Dieu sont présentes autour de nous. Romains chapitre 1, verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Évidemment, quand les scientifiques regardent l'univers, ils ne voient pas forcément ces choses-là, mais parce qu'ils ne considèrent pas, le texte dit, quand on les considère dans ses ouvrages. Il nous faut considérer d'abord que c'est Dieu le Créateur, et ensuite nous voyons eh bien, sa perfection, nous voyons sa puissance, nous voyons sa divinité, Paul dit même comme à l'œil nu, et ça nous le voyons, nous qui sommes chrétiens, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et l'univers est ordonné. Et cela, nous le retrouvons aussi chez Jésus. Lorsqu'il se déplaçait, il y avait là un aveugle de naissance. Et les disciples ont demandé à Jésus, mais que s'est-il passé dans la vie de cet homme? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle ou est-ce que c'est lui-même qui a péché? Et Jésus répond aux disciples, mais ce n'est pas que lui-même ou ses parents ont péché, mais il dit, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Et là encore, ça va être un exemple pour montrer que Dieu agit, parce que Jésus continue en disant, mais moi je dois faire pendant qu'il est jour les œuvres de Dieu, mais l'heure vient où personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, dit Jésus, je suis la lumière du monde. Et alors, il va cracher par terre, il va faire de la boue avec la terre et il va l'appliquer sur les yeux de l'aveugle et il va lui demander d'aller se laver au réservoir de Siloé. Et l'homme, lorsqu'il revient de ce lavoir de Siloé, qu'il s'est donc lavé les yeux, la Bible dit qu'il voyait clair. Et ça, ça fait éclater la gloire de Dieu. Et les guérisons sont une manifestation de la gloire de Dieu. C'est un miracle. Alors un miracle, c'est une grâce. Cet homme n'avait aucun mérite. Cet homme a juste obéi à ce que Jésus lui demandait et il a été tout simplement exaucé dans la foi. Un troisième point, c'est au verset 10 et 12, c'est la réaction du peuple. Verset 10 à 12. D'abord, la vue du peuple est centrée maintenant sur les difficultés. Il est dit qu'ils levèrent les yeux, ils virent les Égyptiens qui étaient puissants, qui étaient nombreux. Que voit le peuple? Eh bien, il voit Pharaon, il voit les 600 chars d'élite, il voit la difficulté qui est plus puissante qu'eux, puisqu'eux ne sont pas des combattants. Et à cette vue, en fait, leur foi qui était au sommet, parce que quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient dans les champs, ils étaient dans l'allégresse, ils étaient dans la foi, parce que tout va bien. Quand tout va bien, on est toujours plein de foi. Mais quand les problèmes arrivent, la foi, ça se dégonfle comme un ballon de baudruche, un petit peu. Ça diminue, ça se restreint. Et là, à un moment donné, ils n'avaient plus la foi, ils ne croyaient plus que Dieu allait les aider. Ils avaient quand même vu les 10 plaies d'Égypte, ils avaient vu comment Dieu avait agi puissamment. Même les Égyptiens, la Bible dit qu'ils avaient, pour les faire partir, il leur avait donné des plats en argent, des biens matériels et pour qu'ils partent. Et voilà, ils étaient partis avec des richesses. Donc, ils avaient vu la main de Dieu partout. Mais néanmoins, devant la difficulté, nos yeux, quand ils voient la difficulté, ça se dégonfle. La foi est tombée par terre. Et c'est pareil souvent pour nous. Et ce qui est terrible avec nos yeux, c'est que nous voyons la difficulté plus grande que Dieu. Car si vous lisez le texte, vous verrez que Dieu avait placé entre les Égyptiens et eux une colonne de nuée et une colonne de feu la nuit. Et donc, il y avait comme une protection que Dieu avait établie entre les ennemis et le peuple. Et c'est curieux comme quoi nous pouvons voir les difficultés, mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Alors que la main de Dieu était là, elle était bien présente, elle était bien visible. Donc, que le Seigneur nous délivre de cet aveuglement pour qu'on puisse voir vraiment que Dieu est là, même dans les difficultés. Le deuxième élément, c'est la peur. Après avoir vu l'ennemi aussi nombreux, ils ont peur et l'angoisse vient dans leur cœur. Ils se voient déjà morts. C'est souvent notre réaction dans l'épreuve. Ça a été la réaction des disciples lorsque Jésus a traversé la mer de Galilée avec les disciples, il était tellement fatigué, ça nous parle aussi de la nature humaine de Jésus qui était pleinement homme, il était tellement fatigué, Marc dit qu'il dormait à la poupe du navire sur un coussin. Alors que Jésus dormait, donc la tempête s'est levée, les eaux remplissaient la barque et la Bible dit que les disciples se voyaient déjà morts. C'est Pierre qui dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Nous périssons, ça veut dire « c'est fini ». Maintenant, nous allons mourir. Ils utilisent un verbe au présent. Et pourtant, quand ils parlent, ils ne sont pas du tout morts. Ils sont encore bien vivants. Mais déjà, ils se voient morts. Et c'est un petit peu notre situation parfois. Que faire? Alors, ils réveillent Jésus. Et c'est là où on voit l'autorité, la puissance de Jésus. Jésus se réveille. Il dit un mot au vent. Il calme le vent. Il menace le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et il y eut un grand calme. Et donc, quand il y a l'angoisse, quand il y a la tempête, nous pouvons faire appel à Jésus, qui est le prince de la paix, qui donne la paix et qui est capable de nous transmettre sa grâce dans une situation d'angoisse. C'est vrai que la peur, c'est normal. On peut se dire, comment je vais faire? Et puis, on a peur. Et puis, qu'est-ce qui va arriver demain? On entend parler de guerre, de bruit de guerre, de guerre nucléaire, est-ce que je vais conserver mon travail et comment je vais faire et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Souvent, des gens se posent la question, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et ça leur fait peur, ça leur suscite des angoisses. Tout ça parce qu'ils n'ont pas la paix de Dieu. Et enfin, le troisième élément, ce sont les paroles négatives qui vont jaillir de la bouche du peuple suite à cette vision, suite à cette peur. Alors ils disent, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ? On aurait mieux aimé mourir en Égypte, mais maintenant ils voudraient retourner en Égypte. Mais ça, ce sont des paroles sont mauvaises. Ce ne sont pas les paroles inspirées de Dieu. Ils parlent de mourir en Égypte, or que Dieu veut les délivrer de l'Égypte et leur donner la liberté. Et par leurs paroles, en fait, ils sont en train de critiquer Moïse, ils sont en train de critiquer Dieu, ils sont en train de juger Dieu, et le cœur de l'homme est ainsi, toujours prompt à murmurer, à condamner, à avoir des paroles négatives. C'est-à-dire qu'on se plaint facilement pour les choses qui ne vont pas. Et j'ai remarqué l'antidote qui est dans le Nouveau Testament, dans Philippiens chapitre 4, verset 4. C'est Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, c'est intéressant qu'il le répète parce que ça veut dire que des fois on ne comprend pas bien quand c'est dit une première fois, mais là, il aurait dit la même chose. Je le répète, réjouissez-vous. Alors c'est quelque chose qui n'est pas naturel cela. Car naturellement, on est comme le peuple, on a tendance à se plaindre de ce qui ne va pas ou des difficultés présentes, mais au contraire, rendez grâce en toute chose, dit la parole de Dieu. Réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Bon, ce n'est pas très facile, parce que c'est par l'esprit, quand on a vaincu la chair. Parce que la chair, c'est quoi qui pousse le peuple à murmurer ? C'est l'esprit charnel qui est humain. Et cette chair nous ramène toujours vers le bas. Mais cette chair, nous devons en triompher par l'esprit. Marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Et quand on a pris cette victoire, alors on peut vivre la parole de Dieu. Et au lieu de se plaindre, on dit merci Seigneur. Et peut-être, ça va nous arriver. Quelqu'un va vous marcher sur le pied à la sortie du culte. Alléluia, merci Seigneur. Dieu est bon. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, pourquoi on n'apprendrait pas par cœur ce verset ? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4, 4. En plus, il n'est pas très difficile à apprendre. Il n'est pas très long. Et puis comme ça, quand quelqu'un vient vous faire monter la moutarde au nez, vous vous rappelez ce beau verset de la parole de Dieu. Non, je ne vais pas m'énerver. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà. Et ça va nous aider à passer ces caps difficiles. Alors pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à se réjouir ? C'est cette victoire que nous devons prendre sur nous-mêmes, la maîtrise de soi, l'ennemi, mais aussi notre nature humaine portée au mal. Et plus vous nourrissez cette nature humaine, la chair, c'est-à-dire vous allez murmurer, vous allez vous plaindre, vous allez dire oui mais il y a ceci, il y a cela, et bien plus elle va se fortifier. Et ça va être de plus en plus difficile après de la juguler, parce qu'elle va prendre une autorité sur votre vie, et puis immanquablement, ça va devenir un discours naturel. On va devenir négatif dans nos propos, on va toujours voir le côté sombre. Et ça, c'est une attitude de vie, c'est un choix. Alors, pour résister à ce choix, il faut prendre une position spirituelle et de dire non, je ne veux pas de cette pensée au nom de Jésus. Cette pensée, je la rejette. Et de triompher de la chair par l'esprit. Alors, j'ai trouvé un autre verset, toujours dans Philippiens 4. Vous voyez, il est bien ce chapitre, Philippiens 4. Il y a beaucoup d'enseignements. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'église de Toulouse-Ouest. Oui, c'est vrai. On est content dans l'église de Toulouse-Ouest. Enfin, dans l'état où je me trouve. On arrive au contentement quand on a vaincu la chair et ses passions et ses désirs. J'ai appris. Mais remarquez que Paul lui-même ne le connaissait pas et qu'il a dû apprendre par des expériences que ce n'est pas sa pensée première ou son esprit humain tourné vers les choses terrestres qui doit dominer, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et ça s'apprend, et c'est ce que nous devons nous aussi apprendre. Quatrième élément, c'est la réaction de Moïse au verset 13 et 14. Et vous allez voir que c'est l'antidote à la réaction du peuple, puisqu'on retrouve les trois éléments qui sont la vision, la paix et le silence. Alors ça va répondre d'abord à la vision des chars et des ennemis. Alors, au verset 13, il dit « Mais regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. » C'est comme si Moïse dit « Arrêtez de regarder les chars et les chevaux de Pharaon, mais regardez plutôt la délivrance qui arrive. Donc ça veut dire changer notre regard, notre vision, retrouver une bonne vision. Le peuple s'attardait trop sur les difficultés du temps présent, mais ça, c'est notre responsabilité. Alors, après, on peut prier, on peut jeûner, on peut chanter, mais si on n'a pas traité ce problème d'orienter notre regard dans la bonne direction, ben, les pensées vont suivre et ça ne va pas fonctionner. Donc, Moïse leur demande de regarder différemment. Je prends l'exemple de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens 4,16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et il explique pourquoi. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. C'est-à-dire que Paul a appris à changer sa vision des choses. Et ça, c'est notre part. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Et trop souvent, nous sommes centrés sur les choses visibles. Mais Paul nous dit non. Non, il nous faut d'abord regarder vers les choses invisibles et laisser de côté les choses visibles qui sont passagères et périssables. Cette vision-là est spirituelle. Cette vision-là, elle nous est communiquée par Dieu. Et si je regarde d'une manière humaine dans l'œuvre de Dieu, je ne pourrai pas avancer. Je serai comme le peuple ici et je serai découragé. Parce que l'être extérieur se détruit, dit le texte. Mais nous avons une autre vision qui est dans le psaume, dans un psaume qui dit que l'Éternel nous fait rajeunir comme l'aigle. Mais si on regarde la vision humaine, on dira ben, l'être extérieur se détruit. Et c'est pour ça qu'il nous faut garder cette vision spirituelle qui est vers l'invisible. Alors, à l'angoisse, au verset 13, à l'angoisse du peuple, Moïse répond par la paix. Et il dit, ne craignez rien, il dit, restez en place. C'est vrai que le peuple est dans l'angoisse. Mais la parole de Dieu dit, ne craignez rien. Et regardez combien de fois c'est dit, ne crains rien, ne crains point, je suis avec toi. Ça revient constamment dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que notre cœur est souvent agité. Et le monde recherche cette paix que seul Jésus peut donner, en fait. Le monde est prêt à payer même des médicaments, des médecins pour trouver un peu de paix, un peu de sommeil. Et Paul dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle nous est accordée, elle vient d'en haut et elle nous gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et puis enfin, au murmure, puisque le peuple murmure, hein, ce sont les propos négatifs, eh bien, Moïse répond par le silence. Verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça veut dire arrêtez de murmurer. Arrêtez de murmurer. Moïse sait que le fait de parler à tort et à travers, de dénigrer Dieu, de dire qu'il faut retourner en Égypte, ce n'est pas bon pour leur âme. Pourquoi ? Parce que ça va s'infecter, ça va influencer d'autres et tout le peuple va être découragé. J'ai remarqué quand même que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce principe. Et le fait de murmurer, non seulement vous infecte vous, mais vous allez infecter votre entourage. Et cela va être préjudiciable. C'est pourquoi il dit « gardez le silence ». Avec les paroles, on peut édifier, avec les paroles, on peut détruire. On peut prendre l'image d'un couteau. Un couteau, c'est très utile. Mais avec un couteau, vous pouvez faire un meurtre, vous pouvez tuer quelqu'un. Et avec un couteau, vous pouvez vous nourrir et faire des choses bien. Mais ce couteau-là, en tout cas, c'est comme la langue. Et la langue, dit Jacques, c'est un petit membre, ça peut embraser une grande forêt. C'est pourquoi elle est puissante. Nos paroles sont puissantes, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas. Les paroles donc négatives étaient tellement puissantes qu'elles allaient enfermer tout le peuple dans la défaite. Alors, que faire ? Ben, quand une parole négative arrive dans notre esprit, ne la prononçons pas pour lui donner de la force, parce que chaque fois qu'on le prononce, en fait, on lui donne de la puissance, on lui donne de la force, de l'autorité. Et au lieu de la prononcer, bien, plutôt évacuons-la au nom de Jésus. Et puis, ben, donnons une bonne parole derrière, une parole d'encouragement, une parole de paix. Et si on fait ces petits exercices, vous allez voir, eh bien, que ce sont des bonnes paroles qui vont vous venir à l'esprit et que les mauvaises, elles vont s'évacuer. Ecclésias 5 dit, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas de s'exprimer une parole devant Dieu, car l'Éternel est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient peu nombreuses. » Par contre, si ce sont des paroles d'encouragement, eh bien ça, ce sont des bonnes choses. Autant les paroles d'incrédulité, les paroles de murmure, eh bien nous devons les évacuer, les faire ressortir, les chasser de notre esprit. Autant les paroles de foi, les paroles d'amour, encourager quelqu'un. Il y a même un homme qui était surnommé dans le Nouveau Testament, Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». Ses paroles étaient encourageantes. Il aidait les autres par ses paroles, et je pense que c'est un petit peu notre vocation aussi. Le dernier élément, c'est les versets 15 à 30. C'est le passage de la mer Rouge. Dans les versets 15 à 30, vous voyez que, en fait, jusqu'à présent, Moïse n'a fait que parler par la foi. Il ne s'est rien passé de particulier. Il a simplement donné les paroles qu'il avait reçues de Dieu. Restez tranquille, regardez la délivrance, Dieu va agir, soyons confiants. Mais pour l'instant, Moïse ne sait pas ce que Dieu va faire. Et c'est dans la suite qu'il va recevoir la directive. Dieu lui dit, prends ton bâton, étends-le sur la mer. Et bien sûr, il le fait dans la foi. Et la puissance de Dieu fait que la mer va s'ouvrir en deux. Dieu va faire souffler un vent d'Orient toute la nuit et le peuple va pouvoir traverser à sec la mer Rouge. C'est un véritable miracle. Les Égyptiens, voyant cela, se sont dit, c'est la bonne affaire, le peuple est dans cet endroit, nous allons l'attaquer par derrière. Mais ils sont entrés dans la mer Rouge, mais Dieu a fait en sorte que les roues des chars et les cavaliers soient déstabilisés, ils ont perdu du temps. Ça a laissé le temps au peuple de sortir de l'autre côté. Et Dieu a dit à Moïse, étends ta main à nouveau sur la mer. Et la mer s'est refermée avec les Égyptiens qui étaient pris au piège. Et ceux qui voulaient faire périr, en fait, le peuple d'Israël, sont eux-mêmes tombés dans leur propre piège et ils sont morts dans la mer Rouge. Alors Dieu avait son plan. Protéger son peuple, on pourrait dire que la situation était mal partie au début pour le peuple d'Israël. C'est souvent vrai aussi pour nous, on n'a pas tous de notre côté. Et c'était même facile pour les Égyptiens de les rattraper. Mais quand Dieu est de notre côté, frères et sœurs, il détient tout entre ses mains. Et il a fait en sorte que les ennemis s'effondrent dans cette situation. Ça veut dire que Dieu est au contrôle, que même si nos ennemis sont plus puissants, eh bien nous connaissons celui qui peut tout faire, c'est Dieu. Et que rien ne résiste à sa volonté. En conclusion, bien peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin, vous êtes dans une situation sans issue, et vous êtes venu ici. En tout cas, je dirais que peut-être vous ne voyez pas l'issue, mais que Dieu, en tout cas, il sait comment vous pouvez sortir de cette affaire-là. Dieu peut créer une issue. De même qu'il a ouvert la mer Rouge en deux, de même il peut ouvrir une porte et vous en créer une solution. Alors parfois, comme le peuple, nous faisons des détours et vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que je suis ici? Eh bien, ce détour, en fait, est une occasion pour Dieu de vous enseigner. Pendant ce temps, en tout cas, quand nous sommes dans le détour, gardons la bonne vision, comme Moïse l'explique. Gardons la paix de Dieu. Gardons le silence, c'est-à-dire refusons un état d'esprit de murmure, de critique, de jugement. Et on sait que Dieu, lui, il s'occupera du reste. Parce que le miracle, c'est sa part. Notre part, c'est de lui faire confiance et de dire, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous prions, mais nous sommes dans la foi et dans la paix. Et Dieu, lui, il est capable d'ouvrir la mer en deux et de permettre au peuple de passer. Dieu est donc capable d'ouvrir une porte, une solution dans votre situation. On va prier un instant. Merci encore pour ta grâce. Nous croyons que tu es toujours ce Dieu du miracle et qu'il n'y a pas de détour inutile. Et que tu as permis encore que le peuple soit éprouvé dans la foi, mais que tu as fait jaillir la solution toi-même. Je te prie pour chacun ce matin, pour que dans ta bonté, dans ta grâce, tu poses ta main sur celui qui est dans cette impasse, qui ne voit pas d'issue, qui ne comprend pas pourquoi il est là, peut-être dans ce détour où il se trouve ici. Mais Seigneur, nous croyons qu'en tout cas, toi, tu connais le début et la fin, et que dans ton plan merveilleux, eh bien, tu veux le meilleur et que c'est un temps de préparation et que dans ta grâce, tu vas faire quelque chose encore pour manifester ta gloire. Tu veux faire éclater ta gloire. Et Seigneur, nous nous attendons encore à ce que tu fasses éclater ta gloire par des miracles, par des délivrances, par des prodiges que toi seul peux accomplir dans le nom de Jésus. Amen.